France Info.
L'invité politique de France Info ce matin est Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force Ouvrière. Jean-Michel Apathy.
Bonjour Jean-Claude Mailly.
Bonjour.
Édouard Philippe, le Premier ministre, va annoncer tout à l'heure à 10h le calendrier et la méthode qu'il choisit pour réformer la SNCF, puisqu'il s'agit de réformer donc l'entreprise publique. Et sans attendre, Philippe Martinez de la CGT, c'est le premier syndicat à la SNCF, a annoncé qu'il se joindrait à une journée de manifestation de la fonction publique pour protester contre cette réforme de la SNCF. Philippe Martinez était l'invité hier de France 3, on l'écoute.
Dès le 22 mars, il y a une journée nationale d'action chez les cheminots, pas que d'ailleurs, parce que c'est intéressant, il y a les salariés de la fonction publique qui seront en grève, les salariés de l'énergie, plusieurs autres salariés. Donc quand on n'est pas entendu, quand le gouvernement ne veut pas discuter, bah faut passer un ton au-dessus.
Est-ce qu'il faut passer un ton au-dessus avec le gouvernement, Jean-Claude Mailly ?
Dès le 22 mars, il y a déjà les trois fonctions publiques qui seront dans l'action, à savoir la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État. Tout simplement parce que les réformes en cours ou annoncées dans la fonction publique, c'est toujours la même logique, comme du temps de Monsieur Sarkozy. On met des experts et les syndicats n'ont pas grand-chose à dire, des inquiétudes. Et puis, il y a effectivement un mouvement annoncé par plusieurs syndicats. On verra après s'il y a d'autres syndicats qui rejoignent le 22 mars à la SNCF. Oui.
FO pour la SNCF.
Oui, c'est pas là où on est le meilleur, la SNCF, mais FO sera dans l'action aussi.
Contre
le 22 mars.
Contre la réforme de la SNCF.
C'est pas
une réforme. C'est pas une réforme qui vous paraît acceptable telle qu'elle se présente.
Attends,
là.
On va voir ce que va dire le Premier ministre, mais je crains. Ouais. Il y a à la fois un problème de méthode et un problème de fond. Mm-hmm. Le problème de méthode, c'est est-ce que le gouvernement va vouloir passer par ordonnance. Ça veut dire que, vous savez, trop d'ordonnances, ça peut tuer le malade, à partir d'un certain moment. Donc, est-ce qu'il va user de cette méthode ? Autant les ordonnances étaient annoncées sur le Code du travail, autant on n'a jamais parlé d'ordonnances sur la SNCF. Donc, il y a une tentation de vouloir passer en force d'une certaine manière, si c'est ça, et de confondre vitesse et précipitation. Puis après, il y a le contenu
ce qu'ils vont annoncer. On va en parler. Sur la forme, alors, puisque vous en parlez, Christophe Castaner était l'invité de BFM la semaine dernière, et sur les ordonnances, effectivement, comme pour le Code du travail, Christophe Castaner a dit, surtout, il ne faut pas en avoir peur des ordonnances.
Les ordonnances sont une des façons de légiférer.
Vous êtes favorable au recours aux ordonnances sur ce sujet pour aller vite ?
Moi, je suis favorable.
Sincèrement.
Sincèrement, je suis favorable à aller vite. Moi, je vous dis, je n'exclus rien. Ensuite, il y a un Premier ministre. N'ayons pas peur des ordonnances.
Voilà, ils veulent aller vite. Ils veulent aller vite parce qu'ils savent que s'ils vont pas vite, le blocage des trains, ça peut être un problème pour faire la réforme.
Oui, donc ils veulent aller vite. Donc c'est qu'ils sont conscients que c'est pas une bonne réforme. S'ils craignent un mouvement, d'une certaine manière. J'en sais rien. On va voir ce qu'il va annoncer.
S'ils pensaient que la réforme serait mauvaise, ils la feraient pas. La réforme qu'ils font, ils pensent qu'elle est bonne.
Eux
ne pensent pas, personne va le penser. Hein.
Oui, mais il y a. Écoutez, moi, je considère que c'est une erreur d'avoir recours aux ordonnances sur.
C'est démocratique les ordonnances.
C'est constitutionnel, ça on est d'accord. Mais je pense que sur un dossier comme celui-là, il pourrait prendre le temps d'une véritable concertation, ce qui n'est pas le cas.
On vous a reçu,
Ah, sur la SNCF, non. Pas particulièrement.
La ministre des Transports la semaine dernière, elle a vu les syndicats.
FO n'est pas représentatif à la SNCF, d'accord. Donc c'est pour ça que mes amis n'ont pas été reçus. Ça ne les empêche pas d'être dans l'action, d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que recourir aux ordonnances est une erreur sur ce dossier.
Est une erreur. On a vu en 1995 que les cheminots avaient le pouvoir de faire reculer le gouvernement. C'est un peu le fantasme de tout dirigeant syndical, ça ?
Oh non, moi, je ne vis pas de fantasme, vous savez. On verra ça, une chose à la fois. Moi, écoutez, il y a une action qui aura lieu le 22 mars. On verra combien de syndicats seront dans l'action. Je pense que
c'est plus large le 22 mars.
Oui, non, mais si on parle des cheminots. Sur les cheminots.
Ils seront tous dans l'action.
Et c'est possible que, notamment s'il y a des ordonnances annoncées, c'est pas impossible que tous les syndicats soient dans l'action. Et le 22 mars, effectivement, il y a toute la fonction publique qui sera dans l'action, mais c'est annoncé depuis un petit bout de temps.
Ce sont des journées d'action qui sont particulières parce qu'elles touchent beaucoup de monde. Vous êtes favorable à cela, au fait que des trains soient bloqués, par exemple, et des trains que la France soit au ralenti, comme on le dit, pour reprendre une expression. C'est une menace qui semble peser sur ce conflit.
Oui, écoutez, on verra. Moi, je ne sais pas. On peut jamais prédire le succès d'une journée de grève et de manifestation. Maintenant, s'ils annoncent une grève, c'est parce qu'il y a une réforme et qu'ils craignent cette réforme. Enfin, à la fois sur les questions de statut, sur...
On va en parler, oui.
Oui, sûr. Sur les questions... Il y a les questions de statut, il y a les questions de l'avenir en tant que tel de l'entreprise, le sous-investissement, les petites lignes qui peuvent fermer, ça fait quand même beaucoup. Il n'y a pas que les syndicats qui s'en inquiètent. Les régions s'inquiètent aussi.
Donc, s'il faut bloquer, vous bloquerez.
Bah, écoutez, si une grève marche, elle marche. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Quand on lance une grève, autant qu'elle marche. Hein. Je rappelle que quand il y a grève, on perd son salaire aussi.
Oui, enfin après on négocie à la fin de la grève.
Pas toujours, vous savez qu'en ce moment, vous savez qu'en ce moment, après le conflit de la pénitentiaire par exemple, il y a des gens qui ont été arrêtés par des médecins, il y a des directeurs de prison qui contestent et qui retiennent des jours de salaire parce qu'ils sont en arrêt maladie, ce qui est quand même un peu curieux. C'est le médecin qui a arrêté, c'est personne d'autre.
Mais puisqu'on parle de la SNCF, la tradition c'est après de payer les jours de grève et ça c'est. Peut-être une ou deux exceptions près tout le temps fait comme ça.
Ouais, c'est moins vrai aujourd'hui. Hein. C'est moins vrai aujourd'hui, mais quand ce qu'on négocie en général quand il y a une grève qui dure, c'est un étalement des retenues.
Et en tout cas, il y en a un qui ne croit pas à la grève, c'est Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF. Il était l'invité de France Info la semaine dernière et il disait une grève, non, j'y crois pas. On l'écoute.
Est-ce que vous craignez une grande grève dans les semaines qui viennent lorsque le gouvernement aura annoncé sa réforme ?
Non, parce que plus il y a d'explications, moins il y a de tensions. Les cheminots, les syndicats de cheminots, ils ont intérêt à ce qu'il y ait un avenir pérenne pour la SNCF. Donc moi, je suis persuadé que l'écoute, la concertation, la négociation vont permettre d'éviter une grande grève.
Voilà, donc selon lui...
S'il y a des ordonnances, la concertation, elle risque d'être très réduite, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc ça risque... Voilà, s'il y avait... Parce qu'il y a à la fois le problème du statut sur le plan social des cheminots, ceux qui, par définition, parce que tout ça découle de textes européens, hein, au départ, directive et l'ouverture à la concurrence sur les voyageurs, les grandes lignes, etc. Ceux qui vont... qui va se passer pour les cheminots qui vont devoir quitter la SNCF pour aller dans une autre entreprise, quelle convention collective, etc. Il y a quand même beaucoup de problèmes sur la table.
Alors, on va parler du fond, mais il faut bien reconnaître que les 46 milliards de dettes de la SNCF, l'Europe n'y est pas pour grand-chose, et que c'est l'une des raisons pour lesquelles
peut-être il faut... On ne dit pas qu'il ne faut rien faire non plus.
On ne dit pas ça.
Vous restez avec nous, Jean-Claude Bailly, il est 8h40, l'essence de l'info, Agathe Mahuet.
La France a froid, moins 7 degrés ce matin à Strasbourg et Nancy, mais ressenti jusqu'à moins 15 à cause du vent glacial. C'est le Grand Est qui est le plus touché. Des températures qui vont continuer à chuter demain et mercredi seront les journées les plus froides. Un classico remporté 3-0 par le PSG face à l'OM, mais gâché par la civière de Neymar, sorti pour blessure à la cheville. Si le Brésilien est absent dans 9 jours face au Real, ce serait un coup dur pour les Parisiens dans ce match retour. Malgré la trêve réclamée à l'ONU, les bombardements n'ont pas cessé hier sur la Ghouta. Ce matin encore, le dernier bastion rebelle près de Damas. Plus de 500 civils sont morts en une semaine sous les frappes du régime. L'OSDH évoque désormais des attaques chimiques. Le service sanitaire détaillé par la ministre Agnès Buzyn cet après-midi à Angers. Un genre de service civique imposé aux étudiants kinés, dentistes, infirmiers ou médecins pour qu'ils transmettent la bonne parole en somme dans les collèges ou les maisons de retraite. La formule devrait être généralisée à partir de la rentrée de septembre.
France Info. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière, est l'invité de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy.
Alors, il y a beaucoup d'aspects dans la réforme de la SNCF. L'état des lignes, du réseau, le réseau secondaire et le statut qu'Emmanuel Macron, en visite samedi au Salon de l'Agriculture, a évoqué de la manière suivante lorsqu'il a croisé, c'était au Salon de l'Agriculture, hein, un cheminot. On écoute Emmanuel Macron.
Moi, mon grand-père, il était cheminot. Il n'avait pas la même vie que vous avez aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc, je peux pas payer. C'est le contribuable qui paye aujourd'hui le statut tel qu'il est. Je peux pas avoir d'à côté des agriculteurs qui n'ont pas de jour férié, etc., qui auront parfois pas de retraite, et dire le statut des cheminots, faut pas le changer.
Le statut des cheminots, il faut le changer. Voilà ce que dit Emmanuel Macron.
Oui, mais enfin, écoutez, la comparaison avec les agriculteurs, elle tient pas la route. Je suis désolé. Vous savez qu'à l'origine, les agriculteurs, comme d'autres, comme les commerçants, avaient refusé de rentrer dans le système de sécurité sociale. Alors, c'est vrai qu'ils ont parfois des petites retraites. Il y a d'ailleurs des phénomènes de compensation démographique depuis 1974 qui aident le système, notamment des exploitants agricoles. C'est jamais bon d'essayer d'opposer public, privé, agriculteurs, cheminots, etc.
On va pas comparer les régimes. Mais non. Ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'il faut que le statut des cheminots évolue, parce que le statut date de 1909, il y a un régime dérogatoire et favorable dans ces temps compliqués financièrement de retraite, et il dit qu'il faut que ce statut évolue. Alors, la question est simple, de votre point de vue, Jean-Claude Mailly, est-ce que ce statut évoluer ?
Il peut toujours évoluer, un statut, il a déjà évolué, regardez, l'alignement sur les retraites, c'est en train de se faire, etc.
Disons qu'il a évolué, ça a changé.
Si, ça change progressivement. Mais c'est une logique d'alignement, c'est pas encore arrivé, mais c'est prévu, pour tous les cas.
Mais ce serait pas un problème, l'alignement, par exemple ? Il faut aller vers l'alignement.
Mais c'est décidé.
Du régime
des retraites. Ça, c'est décidé, Jean-Michel Apathy. L'alignement, il se fait pas du jour au lendemain, mais il est décidé, cet alignement. Est-ce que c'est le statut qui est à l'origine des 46 milliards de déficit de la SNCF? Je ne pense pas.
Pour partie,
ce soit.
Non, pas du tout.
Il y a peut-être un aspect, mais c'est pas l'essentiel. Enfin, l'essentiel, il y a quand même eu un sous-investissement chronique depuis des années à la SNCF. Tout le monde le dit. Tous les pépins qu'il y a régulièrement, à la gare Montparnasse ou ailleurs, c'est pas le statut qui est à l'origine des pépins. C'est du sous-investissement chronique. Je pense que quand on a découpé la SNCF en morceaux pour répondre aux directives européennes, c'était pas forcément une bonne solution. Les pays qui ont privatisé le Royaume-Uni, c'est pas forcément mieux non plus. Donc non, mais ce que je crains...
Sous-investissement, vous dites, mais alors ça veut dire que
des milliards de sous-investissement.
Des milliards de sous-investissement. Ouais. Si on avait investi comme on aurait dû, la dette serait encore plus importante. Voilà, pour le coup, c'est sans fin.
Peut-être qu'il y a eu des choix aussi sur les grandes lignes, les TGV, et puis qu'on a laissé, tomber d'autres. Et il y a des stratégies qui ont été suivi d'une manière ou d'une autre. Et en ce moment, les cheminots risquent d'en faire les frais, à la fois ceux qui sont dans le statut et ceux qui vont devoir quitter l'entreprise. Parce qu'il y en a qui vont devoir quitter l'entreprise.
Vous dites le statut, c'est pas le problème. D'accord. Mais le statut, il va évoluer visiblement. Jusqu'où, selon vous, on peut aller?
J'en sais rien. Écoutez, ça, c'est les cheminots qui discuteront avec le gouvernement.
Il n'y a pas de ligne rouge.
Discussion.
Il n'y a pas de ligne rouge.
Attendez. Il y a des lignes rouges, mais c'est les cheminots qui vont discuter avec le gouvernement. S'il y a possibilité de discuter. Parce que si ça passe par ordonnance, ça risque d'être restreint comme discussion et ça risque de mettre de l'huile sur le feu, la méthode.
Mais l'emploi à vie, c'est tenable, c'est souhaitable, il faut le maintenir ou pas? Quand on entre à la SNCF à 20 ans, si on n'en sort pas de soi-même, on peut aller jusqu'à la retraite.
Oui.
Est-ce que ça, c'est souhaitable ou pas? Ou est-ce qu'il faut assouplir ce
mais
régime-là?
Pourquoi voulez-vous que ce soit toujours les salariés qui... Ah ben, il y a problème à la SNCF, il y a eu des erreurs, ou dans d'autres entreprises, donc il faut casser les règles qu'ils ont. Non, je ne pense pas que le statut soit le premier problème à la SNCF.
Pas le premier, mais le deuxième.
Non. Mais il y en a, mais il peut y avoir des... Non, mais il peut y avoir
l'emploi
des difficultés.
Je vous questionne assez simplement. Je ne dis pas que c'est le principal problème, mais l'emploi à vie, c'est une donnée qui peut être défendue ou qui n'est plus défendable.
Voilà, vous allez voir, on va voir très bien là, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont cheminots et qui vont aller dans le privé. Parce que là, ça va se faire avec la mise en œuvre de la directive pour certaines activités. Ils n'auront pas l'emploi à vie, ceux-là, puisqu'ils vont devoir quitter le statut des cheminots et pour prendre une convention collective de droit privé, qui est d'ailleurs pas très claire pour le moment.
La question, c'est quand la SNCF va embaucher des gens. C'est ça la question. C'est pas quand.
Quelques activités
assez marginales vont passer.
Je ne sais pas. Moi, on va attendre ce que va dire le gouvernement. Je ne sais pas ce qu'ils vont annoncer. Est-ce qu'ils vont faire comme France Télécom?
Est-ce que vous pensez que.
Est-ce qu'ils vont faire comme France Télécom?
À France Télécom, quand France Télécom a été privatisée, deux statuts ont cohabité.
Voilà, deux statuts ont cohabité. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent faire? J'en sais rien. On va attendre ce que va dire le Premier ministre ce matin. Mais
oui, on va attendre. Mais c'est votre point de vue. Est-ce que c'est souhaitable ou pas? Est-ce que c'est
non, c'est pas obligatoirement souhaitable. Non, c'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable a priori. Non, bien sûr que non.
Puis l'autre aspect, c'est les réseaux secondaires. Qui coûte très cher.
Ouais.
Et là, est-ce qu'il faut fermer des lignes? Est-ce qu'il faut.
Oui, mais est-ce qu'on est encore dans une république? Est-ce qu'on est encore dans une république avec. Il y a déjà des régions et des départements qui sont enclavés. Est-ce qu'on doit poursuivre l'enclavement ou est-ce qu'on doit essayer de désenclaver? Voilà, et à un moment donné, les régions s'inquiètent également et c'est tout à fait logique.
Il peut y avoir des solutions alternatives.
C'est quoi les solutions? Le bus, la SNCF a investi dans les bus, vous le savez comme moi, on en voit assez régulièrement. Alors il peut y avoir ça, mais il y a aussi des lignes secondaires qui n'ont pas été entretenues, c'est évident.
Finalement, il n'y a pas grand-chose qui doit changer si on vous écoute.
Non, je ne dis pas ça, je dis...
Parce que si on ne doit pas toucher au réseau secondaire, si on ne doit pas toucher au statut...
Mais entre ne pas toucher au réseau secondaire, c'est réglé, comme ils n'investissent plus au réseau secondaire, il y aura des accidents de plus en plus et des pépins. Donc, vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage, d'une certaine manière. Bon, tout le sous-investissement est aussi à l'origine... Le premier problème aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une dette, mais c'est le sous-investissement à la SNCF qui est à l'origine de beaucoup de problèmes.
Qu'est-ce qui fait la dette?
La dette, c'est la gestion globale. C'est il y a eu à un moment donné la SNCF aussi en tant que l'État actionnaire redonnait de l'argent à l'État aussi. Ça existait aussi ce genre de choses.
Bien sûr. C'est-à-dire, vous voulez dire quoi? Non, mais la dette. Qu'est-ce qui fait que la dette elle a crû dans des proportions considérables depuis 2010?
Il y a eu des investissements, mais pas partout. Notamment sur les grandes lignes, il y a eu beaucoup d'investissements.
Oui, si on avait eu partout, la dette aurait été plus importante. C'est donc...
Et aussi les modes de gestion exigés par certaines directives européennes. Sur le fret, etc. Avec découpler le réseau. Enfin, écoutez, on a le problème ailleurs.
C'est un peu
quand
la faute
entre des... moi je suis européen, mais j'ai contesté.
On se demande pourquoi on l'est, parce que finalement, dans le débat public, sur plein d'aspects, on dit, c'est la faute à l'Europe. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on reste européen?
Éléments... Ben, je suis européen, mais vous savez, moi, je pense qu'être européen aujourd'hui, c'est être critique sur l'Europe. Parce que si on n'est pas critique sur, sur l'Europe, l'Europe sera jetée par les citoyens. Et pas simplement en France, un peu partout. Regardez ce qui se passe en Italie avec les élections, regardez partout. Bon, il y a bien un élément. Si les politiques ne prennent pas conscience de ça, il y aura de lourds problèmes sur le plan européen. Mais, regardez aujourd'hui quand on a, y compris sur l'électricité entre EDF et Engie aujourd'hui, la concurrence qu'ils se font, entre le gaz, l'électricité, etc. Est-ce que c'est intéressant pour les citoyens et les consommateurs? J'en suis pas convaincu.
Sur l'électricité, le prix peut être moins cher.
Après. Oui, non, mais suis pas convaincu. Quand on voit la situation d'EDF aujourd'hui, y compris financièrement, j'en suis pas convaincu.
Vous voudriez que soient remises en cause les dispositions qui sont en train d'être prises pour que la concurrence soit effective à partir de 2020 sur le réseau ferroviaire?
Ça aurait été intelligent de travailler là-dessus, oui, mais visiblement, c'est pas l'orientation qui est prise aujourd'hui par le gouvernement. Au contraire, ils veulent accélérer.
Même si l'ouverture, ça va dans tous les sens, c'est-à-dire ça permet
aussi à la SNCF d'être présente sur des marchés étrangers. Comme la RATP qui est présente à Londres.
Bien sûr. C'est pas unilatéral l'ouverture.
Mais attendez, un service public où on rentre dans une logique complètement concurrentielle et puis on fait rouler que les trains qui sont rentables. Oui, puis après les gens se démerdent.
Est-ce qu'il n'y a pas dans le débat public français une manière de ne pas regarder la réalité qui fait qu'on n'avance pas beaucoup au fond?
Bah, je trouve qu'on avance beaucoup, moi.
Vous trouvez qu'on avance beaucoup?
Ah bah oui, je trouve qu'on avance beaucoup, mais vous savez...
Vous trouvez qu'on avance beaucoup dans le mauvais sens, c'est ce que vous voulez dire?
Non, pas obligatoirement toujours dans le mauvais sens. Là, on est sur un dossier, il y a d'autres dossiers. Regardez sur la formation professionnelle, on a avancé, on a trouvé un accord, etc. Il y a des choses qui avancent.
On va en parler, oui, puisque l'accord que vous avez trouvé sur la formation professionnelle, le gouvernement dit, ça ne nous convient pas.
Non, c'est la première fois, ça va être significatif d'ailleurs, c'est la première fois qu'on négocie un accord interprofessionnel. Là, c'est sur la formation professionnelle, oui. Il y a un deuxième sur l'assurance chômage. On va voir quel est le respect que le gouvernement a d'un accord signé. C'est la première fois, puisque avant c'était des ordonnances.
Et l'assurance chômage, d'ailleurs, on dit que vous êtes au bord du clash.
Non. Sur l'assurance chômage, on va attendre ce que va dire le gouvernement. Est-ce qu'ils vont ou pas reprendre ce qu'on a négocié? C'est ça la difficulté.
Et si la ministre a dit que sur les droits, on va voir.
Vous savez, moi, je ne tire pas des plans sur la comète. Hein. On va déjà voir sur la formation professionnelle. La ministre doit s'exprimer mardi. Si elle a déjà dit sur tout ce qui est droit, elle reprend. Bon, après, elle parle d'un Big Bang. Alors, je sais pas ce que c'est qu'un Big Bang. Là aussi, il y a des choses qui peuvent évoluer. Mais si elle ne respecte pas l'esprit de l'accord, il y aura problème.
Vous restez avec nous, Jean-Claude Mailly, 8h50, l'essentiel de l'info, Agathe Mahuet.
Les médecins et l'OSDH affirment que du chlore a été utilisé en Syrie pour la 4e fois depuis le début de l'année. Des attaques chimiques de la part du régime al-Assad sur la Ghouta orientale, le dernier bastion rebelle près de Damas. La trêve réclamée par l'ONU n'a pas fait cesser les bombardements. Un deuxième fragment d'os découvert dans la maison Seznec à Morlaix, 96 ans après la condamnation au bagne à perpétuité de ce Breton. Aucun lien vérifié pour l'instant avec le corps de Pierre Kemener, général disparu en 1924, mais ses fouilles relancent en tout cas l'énigme judiciaire. La neige attendue en fin de matinée sur l'extrême sud-est de la France, le Var, les Alpes-Maritimes et de Haute-Provence, trois départements qui sont en vigilance orange pour la neige et le verglas. Partout ailleurs, c'est le froid qui s'intensifie, surtout dans le Grand Est. Il fait moins 7 à Strasbourg et Mulhouse ce matin à l'abri du vent, mais en plein courant d'air, la température ressentie descend jusqu'à moins 16. Et puis les athlètes français de retour de Pyeongchang avec leurs 15 médailles olympiques. Cet après-midi, la délégation française sera accueillie à Lyon.
France Info. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière, est l'invité de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy.
On a beaucoup parlé ces derniers jours des propos que Laurent Wauquiez a tenus devant des étudiants d'une école de commerce à Lyon. Il ne pensait pas être enregistré, il l'était. Les propos ont été diffusés et certains de ces propos vous concernent, non pas vous directement, Jean-Claude Mailly, encore que. On va essayer d'expertiser ça ensemble. En tout cas, il concerne le monde syndical. Écoutez Laurent Wauquiez devant des étudiants à Lyon.
Par exemple, les associations syndicales recevaient à peu près 5 millions d'euros chaque année de la région. La CGT se faisait un joli chèque de 3 millions d'euros sur le budget de la région, chaque année. Et le pire, si on est très honnête entre nous, c'est que les plus catastrophiques, c'est qui? C'est le MEDEF et c'est la CGT. Eux, c'est pire que tout. C'est-à-dire, eux, ils n'en ont rien à foutre de savoir si on augmente les cotisations sur les entreprises, si on augmente le truc. La seule chose qu'ils veulent, c'est encaisser l'argent.
Bon, moi, c'est du parler cash. Il a tort, Laurent Wauquiez, ou il a raison, sur le fond?
Je pense d'abord que il est pas piégé, hein. Il sait ce qu'il fait quand même, hein. Faut arrêter. Il sait bien, tout le monde sait bien que ça n'existe pas, le off, quand on est comme ça. Donc, bon. Il l'a fait volontairement. Tout ce qu'il a dit, je pense qu'il l'a fait volontairement.
Tout, d'accord.
Ouais, je pense.
Même sur Sarkozy. Ouais,
je
même
pense.
Sur...
Ouais, d'accord. Ouais, je pense.
Bon, enfin, bon, c'est mon point de vue. J'ai pas
très, très, très.
J'ai pas qui a cramé la caisse, tout ça. Enfin,
bon,
ça
après, sec, hein. Après, moi, je sais rien sur les chiffres. Je peux vous dire que, pour moi, sur ce qui concerne FO, il doit pas y avoir grand chose, hein, franchement.
Il n'y a pas de subvention régionale.
Si, il doit y en avoir, mais c'est pas, je ne sais pas exactement, c'est pas la Confédération qui est en lien, c'est les unions régionales.
Vous êtes patron de Force Ouvrière.
Oui, non, mais patron de Force Ouvrière, c'est pas un PDG, Jean-Michel Apathy. Hein. Moi, j'ai les comptes de la Confédération, j'ai pas les comptes.
Est-ce que vous savez,
je suis sûr que, à tous les chiffres donnés, je suis sûr que ça concerne pas FO, ça, c'est évident.
En pourcentage, quelle est la part dans le financement de Force Ouvrière, hein, quelle est la part de cotisation en pourcentage, hein, la part de cotisation.
Sur global, je sais pas.
Et la part d'argent public.
Sur le global, je sais pas, parce qu'on est une organisation très décentralisée. Alors,
c'est fou, ça, hein.
Ben, heureusement qu'on est décentralisé.
Mais non, c'est pas
mais
ça.
Si.
Mais c'est pas ça la question. C'est la question, c'est la transparence. Quelle est la part d'argent public qui est versée aux organisations syndicales,
si, je dis à peu près 50% sur le budget de la Confédération. Oui, mais je. Enfin,
le monde syndical est le seul monde qui a.
Mais non, vous savez
quoi.
Arrêtez. Si vous avez le temps, prenez le journal officiel.
Attends,
si vous avez
le temps, prenez. Non.
Si vous avez le temps, prenez le journal officiel. Il y a des commissaires aux comptes, il y a tous les comptes.
Mais vous ne le savez pas.
Je ne sais pas. Syndicat par syndicat, département par département, ça s'appelle le fédéralisme. Nous sommes décentralisés. Nous ne sommes pas une organisation centralisée. Je n'ai pas de non. Et je n'ai pas et je n'aurai pas.
Donc, je n'aurai pas de compte consolidé. On ne sait pas si Laurent Wauquiez a tort ou a raison de dire ce qu'il dit, c'est-à-dire
j'en sais rien sur les chiffres qu'il
donne.
Mais il y a des, il y a toujours eu des conventions.
Vivent trop sur le dos des contribuables.
Il y a des conventions qui existent souvent entre les régions et les unions régionales syndicales. Ce dont je suis sûr, que ça n'a, en tous les cas, pour FO, ça n'atteint pas les montants que j'aime lire.
Pour FO, mais bon, la
j'en sais rien.
La CGT, peut-être 3 millions.
Mais j'en sais rien.
3 millions pour la seule région Rhône-Alpes.
Pour la seule région.
Je n'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien.
Mais
je sais pas.
Du coup, sur le fond, il a tort ou il a raison? De dire que,
Des montants comme ça, oui, ça.
Ah, c'est vrai? Ça vous choque?
La CGT
touche 3 millions de...
Oui, c'est énorme. Si c'est vrai, c'est énorme. Mmh. Oui, ça, je suis d'accord.
Et quand il dit que le MEDEF se gave un peu, donc ce qui est contradictoire avec le discours officiel du MEDEF, parce que c'est ça qui est intéressant dans la prise de parole de Laurent Wauquiez. D'un côté, on dit il y a trop de charges, les contribuables sont essorés, et de l'autre, donnez-nous l'argent. Ça va pas, il y a un truc qui va
pas.
Oui,
non, mais les chiffres, si les chiffres sont vrais, moi j'en sais rien, j'ai pas.
Il n'y a pas que les chiffres, il y a l'état d'esprit, la méthode.
Oui, non, mais bien sûr,
les habitudes.
Ça fait beaucoup, etc. C'est évident. Maintenant, vous savez, il y a
réformer tout ça par ordonnance.
Non, mais il y a des conventions qui existe généralement entre une région et les organisations syndicales pour faire tel ou tel type d'études, tel ou tel type de choses, etc. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, ça n'attache jamais, à ma connaissance, ces montants-là. Hein. Franchement. Hein.
Vous avez, ici même, je m'en souviens, vous avez pu avoir des propos assez sympathiques pour Emmanuel Macron. Au bout d'un an, là, vous êtes toujours un peu en sympathie, vous vous dites... Il nous
fatigue. La sympathie. Moi, j'ai toujours dit, je continue à dire que sur le plan européen et international, il fait des choses qui sont intéressantes. Maintenant, je crains que, vous savez, il y a un danger. Quand on pense qu'on peut tout faire, c'est là qu'on fait des conneries. Ah. Voilà. Alors, on va voir.
Normal, ça. Phrase du jour. Voilà. Emmanuel Macron, quand on pense qu'on peut tout faire, on fait des conneries.
C'est pas qu'il va les faire, j'en sais rien. Ouais. Mais trop de mettre de choses sur la table en même temps, c'est
pourtant,
pas forcément une bonne chose.
Vous étiez, en effet, séduit pas seulement par l'international et l'Europe, par la méthode.
Ah ben la concertation,
Il vous avait reçu, vous aviez aimé ce face-à-face.
On discute, on continue à discuter avec les pouvoirs publics, etc. Mais par exemple, là, de passer sur les ordonnances, je parle de méthode, je trouve pas ça bien. Et on va voir, moi j'attends de voir. Je dis, c'est la première fois qu'on est confronté à un accord qui est signé, en tous les
donc
cas.
Donc, vous lui dites quoi, ce matin?
À Emmanuel Macron.
Attention, au-delà de la phrase que vous avez utilisée.
Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.
Ouais. Sinon, ça peut être...
À un moment donné, oui. Vous savez, quand on est trop sûr de soi, à un moment donné, c'est là qu'on fait une bêtise.
Et vous le trouvez un peu sûr de lui?
Un peu, quand même, ouais.
C'est Jupiter, ça?
Ouais, je sais pas si ça. Oui, on sait ce qu'on dit.
C'est le côté Jupiter
du personnage.
Oui,
il y a un côté Jupiter du personnage. Oui, mais puis vous savez, l'Élysée, ça finit par isoler. Hein, c'est valable pour lui comme pour tout le monde.
D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez fait référence. Je cherche dans ma tête, j'ai pas trouvé la référence exacte, mais vous avez dit, c'est comme du temps de Nicolas Sarkozy. Vous avez zappé François Hollande, mais vous avez fait une analogie.
Oui,
entre
non, c'était
Nicolas
par rapport
Sarkozy,
à la méthode sur les fonctionnaires.
Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Il vous fait penser à Nicolas Sarkozy quelquefois.
Écoutez, sur la méthode, oui, sur les fonctionnaires, Sarkozy avait fait ce qu'on appelait fait une révision générale des politiques publiques, confiée à des experts, sans consulter les syndicats, et là on se retrouve dans la même situation avec Cap 22.
Bon, faut pas trop en faire, sinon on fait des conneries.
On risque d'en faire.
On risque d'en faire.
Merci beaucoup Jean-Claude Mailly. Merci. Bonne journée à vous.